J'aimerais, avant de commencer mon étude, faire une lecture avec vous d'un texte que peut-être vous connaissez bien. C'est un texte qui fait référence au rocher d'Horeb. Mais ce matin, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce qui va se passer avant. Aussi, ma lecture va commencer dans Exode, chapitre 17, verset 1er. Je vais vous laisser quelques instants pour le trouver, à moins qu'il s'affiche. Et nous allons faire une lecture du verset 8 au verset, du verset 1er au verset 8, pardon. Voici ce que nous dit ce texte, verset, chapitre 17, verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon la marche que l'Éternel leur avait ordonnée. Et notez bien tout ça, parce que c'est l'Éternel qui les fait passer par là. Ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif et murmuré contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je de ce peuple encore un peu ?» Et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main avec laquelle, prends avec toi dans ta main la verge, ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Je vais m'arrêter là parce que ce texte est à mettre dans un ensemble, à incorporer dans un ensemble. Et bien souvent, quand nous cloisonnons nos lectures au chapitre, il y a une perception et une compréhension qui nous échappent. Et souvent, j'ai lu ce texte détaché du reste, et peut-être vous faites comme moi, lorsqu'on fait des lectures suivies, bien souvent, nous pouvons lire un chapitre, voire deux chapitres par jour. Mais là, dans cette histoire, il faut la replonger dans un contexte global. Et le contexte global est celui de la sortie d'Égypte. Le contexte global, c'est le peuple d'Israël que Dieu va amener à sortir d'Égypte, et il commence quelques chapitres avant celui-ci, et nous voyons Israël sortir d'Égypte et ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire. Non seulement ils vont vivre les plaies, quelque chose de miraculeux, ils vont vivre la mer Rouge qui va s'ouvrir devant eux, ils vont passer à sec, ils vont voir l'armée égyptienne être recouverte, balayée dans les eaux. Et vraiment, ça, il va se passer quelque chose d'extraordinaire quelques chapitres auparavant cette histoire. Et vraiment, Dieu va montrer toute sa gloire et sa puissance, va manifester toute sa puissance. Et vraiment, on sent dans le peuple d'Israël quelque chose d'extraordinaire se passer dans son cœur, manifesté par un chant. Au chapitre 15 d'Exode, vous allez trouver, et bien souvent les titres de Bible vont dans ce sens-là, vous allez trouver Moïse et vous allez trouver Myriam qui vont composer un chant de victoire magnifique, manifestant la gloire et la puissance de Dieu. En voici quelques extraits. « Il a fait éclater sa gloire. L'Éternel est ma force, est un vaillant guerrier. Qui est comme toi, ô Éternel ? Il a précipité Pharaon et son armée. » Wow! Ils ont été bénis. Et vraiment, tout ce passage-là est très intéressant parce qu'il nous rappelle notre propre victoire en Jésus, n'est-ce pas ? Nous rappelle notre cheminement spirituel. Dieu nous a fait sortir de notre Égypte, nous a fait passer par notre mer Rouge qui est le baptême. Et nous vivons en nouveauté de vie avec lui. Et oui, il y a de la joie. Seulement, le contexte n'en reste pas là. Il y a la suite. Exode chapitre 15, c'est vrai, en grande partie, nous trouvons ce chant de victoire magnifique. Et à la fin d'Exode chapitre 15, nous sentons Israël basculer dans autre chose. Et là, de suite, c'est moins glorieux, moins évident. Et Israël va passer par une succession de quatre événements. Et je ne crois pas me tromper en disant que ces quatre événements vont être quatre épreuves successives. Quatre épreuves qui vont être compliquées à gérer pour Israël. Quatre épreuves qui, pour nous, et nous les connaissons, mais peut-être nous n'avons jamais peut-être donné cette vue d'ensemble à ce qui se passait à Israël. Et j'aimerais ce matin vous donner la vision globale de ce qu'Israël va vivre en l'espace de 2 mois. Parce que ces quatre événements, à la suite du passage de la mer Rouge, vont se passer en 2 mois. Autant dire que c'est très court, c'est très condensé. Et dans ce condensé de 2 mois, Israël va vivre 4 événements, 4 épreuves successives qui vont leur tomber sur le coin de la figure. L'une des premières, et vous allez vous rappeler de cela, donc nous sommes à la suite du champ de Moïse, qu'est-ce qui va se passer? Israël va marcher pendant 3 jours dans le désert. À la suite de ces 3 jours de désert, évidemment, je vous laisse imaginer, ils vont avoir soif. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas trouver d'eau. Ils vont arriver à Mara, sans doute une étendue d'eau. Malheureusement, Mara, comme le dit son nom, Mara, amer, ils n'ont pu boire cette eau parce que ce n'était pas possible à boire. Tant et si bien qu'ils vont se tourner vers Moïse et ils vont murmurer. C'est ce que dit ce passage, verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Et là, Dieu va faire grâce, comme souvent il fait grâce dans nos épreuves. Il va dire à Moïse, prends un bout de bois, jette-le dans l'eau, et l'eau va devenir potable. Et gloire à Dieu, ils vont boire. Première épreuve. Deuxième épreuve, nous sommes 45 jours après être passés par la mer Rouge. Autant dire, ça passe très vite. 45 jours plus tard, Israël va encore cheminer dans le désert, et cette fois-ci, ce n'est plus la soif, c'est la faim. Et ils vont avoir faim, tellement faim, qu'à un moment donné, ils vont se tourner de nouveau vers Moïse, ils vont murmurer contre lui. D'ailleurs, le texte est suffisamment explicite. Ils disent à Dieu, mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Maintenant, nous allons mourir de faim. Au moins, en Égypte, nous avions de la viande. Ils parlent de peau, nous étions rassasiés. Et là, ils vont de nouveau, et c'est le texte qu'il dit, ils vont de nouveau murmurer contre Moïse. Et Dieu va faire de nouveau grâce. Puisque la Bible nous parle que Dieu va envoyer des cailles et il va envoyer de la manne, et ils vont être rassasiés et bénis. Continuons. Ils ne sont pas au bout de leur peine. Troisième épreuve. Nous sommes toujours dans les 2 mois qui ont suivi le passage de la mer Rouge. Et quelques jours plus tard, alors que Dieu a pourvu à la manne et aux cailles, nous nous retrouvons dans la même situation que nous avons eue premièrement. Ils vont manquer d'eau. Ils vont manquer de boire. Et nous l'avons lu, c'est Exode chapitre 17, c'est ce que nous avons lu, c'est notre lecture. Ils vont arriver à Réphidim, et là, Réphidim, qui bizarrement veut dire repos, et j'y reviendrai dans quelques instants, Réphidim qui veut dire repos, là encore, ils vont avoir soif, normal, c'est des terres désertiques, ils ont besoin de bois, et ils ne vont pas trouver d'eau. Et là, il y a ce texte magnifique que nous avons lu, où Dieu va dire à Moïse, tiens-toi, je me tiendrai devant le rocher, frappe le rocher avec le bâton, et de ce rocher va sortir de l'eau, et Israël pourra boire. Dieu merci, il va faire grâce. Où je vais en venir ce matin par rapport à tout ça? Souvent dans ma lecture et dans ma compréhension de ce qu'Israël a vécu, j'ai plus mis souvent, porté mon attention sur leur réaction, et leur mauvaise réaction, le fait qu'ils murmurent contre Moïse, le fait que quelque part dans leur cœur, ils en viennent très très loin dans leur attitude, dans leur comportement, quelque chose qui est extrêmement négatif en soi. Et nous avons tous dans l'esprit, ah méchant, pas bien Israël dans le désert, ça s'est pas bien passé. En effet, sauf que notre perception et peut-être l'attitude que nous pourrions critiquer nous a bien souvent amené à sous-estimer ce qu'ils ont vécu. En mettant souvent l'accent sur le fait qu'Israël n'a pas bien fait, nous avons peut-être minimisé ce qu'ils ont vécu. Parce que j'aimerais vous dire qu'après 3 jours de marche dans un désert, il est normal d'avoir soif, n'est-ce pas? Et même j'aimerais vous dire d'avoir très soif. Parce que c'est la réalité de ce qu'ils ont vécu. Il ne faut certainement pas minimiser l'épreuve parce qu'ils se sont mal comportés. Ça a été très dur. Ça a été violent. Ça a été un combat de tous les jours. Quand ils disent à un moment donné, ils vont le dire, mais pourquoi tu nous as amenés là? Comment? Et il le dit dans Arefidim en particulier, j'aime ce texte parce que le peuple exprime sa souffrance, dit à Moïse, mais pourquoi tu nous as amenés là? Nous allons mourir de soif, moi je vais mourir de soif, mes enfants vont mourir de soif, mes troupeaux vont mourir de soif. Vous savez que quand on a soif, il y a de quoi devenir fou. Et je peux me mettre à la place de ces parents qui peut-être vont voir leurs enfants leur dire, mais papa, maman, j'ai soif. Pas si vous avez eu des enfants, si votre enfant a soif, je peux vous le dire que si vous ne l'avez pas compris une fois, ils vous le font comprendre au fur et à mesure. Mes enfants ont l'habitude de... Quand ils ont un besoin particulier, ils me le font comprendre. Et j'aimerais vous dire qu'il y avait une pression, pas possible, au travers de ce qu'ils ont vécu. Et souvent, on a minimisé la portée de l'épreuve qu'ils ont vécue parce qu'ils se sont mal comportés. Or, j'aimerais vous dire que ça a été très dur. Avoir faim, peut-être ne pas manger depuis plusieurs jours, avoir soif, ne pas boire pendant plusieurs jours, ça a été une torture. On pourrait se dire qu'arriver à Refidim, qui veut dire repos, enfin, après cette troisième épreuve, ils vont pouvoir passer à autre chose. Sauf que, je vous l'ai dit, il va y avoir quatre événements. Deux vont d'ailleurs se passer à Refidim. Le premier, en effet, c'est le manque d'eau. Ils vont avoir soif, mais là-dessus va se greffer une quatrième épreuve. Et cette quatrième épreuve, elle va prendre une forme tout autre. Si les besoins ont été terribles pour ce peuple, ils vont passer dans une type d'épreuve. Et cette fois-ci, ce sont... Amalek, les Amalécites qui vont les attaquer. Le texte, il le dit, on a fini comme ça au verset 8, puis les Amalécites survinrent et combattirent contre Israël à Refidim. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, voilà la cerise sur le gâteau. C'était pas assez compliqué jusqu'à présent. Il a fallu que quelque chose vienne se rajouter. Et vous savez, des fois... Peut-être ça vous est arrivé d'enchaîner les galères. Vous connaissez ça? D'enchaîner les difficultés. Vous savez, il y en a une, bon, passons, mais quand il y en a deux, ok, trois, quatre. Je me rappelle une chose avec mon épouse, je me rappellerai toute ma vie de notre rentrée 2015. D'ailleurs, je l'ai expliqué aux jeunes adultes, tellement ça m'a marqué. Notre rentrée 2015, en septembre 2015, nous rentrons de vacances, nous avions vécu des temps vraiment bénis, c'était chouette, on rentre de vacances, nous arrivons sur Paris, l'une des premières choses que je fais, c'est que je vais vérifier ma voiture. Je ne sais pas si vous faites pareil, et je mets la clé dans le contact et plus rien, panne de batterie. Vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose, sauf qu'une panne de batterie dans une voiture qui est au fond d'un garage, ça devient un peu plus compliqué, il faudrait mettre une voiture à côté. Bref, il a fallu sortir la voiture de notre box, qui était au fond du box, et ma journée commençait bien, j'ai failli m'arracher le bras. Ne me demandez pas comment j'ai fait, mais je me suis retrouvé coincé entre ma voiture et le mur. Et Dieu merci, mon bras est toujours présent, hein, gloire à Dieu. Et j'ai réussi à sortir la voiture et nous avons réussi à redémarrer notre voiture. Le lendemain, c'est notre fille Colline qui vient nous voir et qui nous dit « je ne suis pas bien, elle va vomir pendant la nuit, pas en forme, malade, nous appelons les urgences, on dit, ah, je pense qu'elle avait un peu de fièvre, elle a mal au ventre, les urgences nous disent « faudrait quand même peut-être venir à l'hôpital ». Bon, ok, bon, on va à l'hôpital, je me rappelle de ça, puis il nous dit « ah, il y a peut-être une suspicion d'appendicite ». Deuxième jour, hein, jour 2, hein, d'accord. Donc, suspicion d'appendicite, je dis, oh, pff, et du coup, il la garde en observation pendant 3 jours. 3 jours, 3 nuits, parce que quand votre enfant est surveillé, bien sûr, ils viennent prendre la température 3 à 4 fois dans la nuit, donc c'est pas vraiment des vacances, c'est pas vraiment reposant. Et au final, à la sortie de ces 3 jours d'hôpitaux, ils nous disent, c'est bon, vous pouvez rentrer. J'appelle mon épouse, je lui dis, ma chérie, tu peux venir nous chercher, c'est bon, on prépare les affaires, on prépare les valises, les bagages. Ma femme se prépare et elle vient nous rejoindre. Et alors qu'elle dépose notre dernière chez une voisine pour venir nous chercher, elle se casse la figure dans les escaliers. Et elle m'appelle, elle me dit, Pierre, je ne peux pas venir, je me suis cassé la figure dans les escaliers. de prime abord, on ne prend pas forcément la mesure de ce qui se passe. Mais bref, je dis pas de problème. Et elle me dit, j'ai demandé à une amie de venir te chercher. Donc prépare les affaires, il n'y a pas de souci. Je dis, ok chérie. Donc notre amie était en train d'arriver sur l'hôpital. Je me dépêche, je prends ma fille. Quand vous restez 3 jours à l'hôpital, vous ne venez pas les mains vides. Vous avez des affaires de change, vous avez les oreillers. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir dormir sur place, pour pouvoir vous changer. Donc je prends tout ce qu'on avait amené pendant les 3 jours, les oreillers, tout ça. J'avais la poussette. Je prends ma fille à côté de moi, je prends mes affaires. Je me dis, je vais garder mon téléphone à la main pour, juste au cas où Alice arriverait. Je prends mon téléphone, je passe à la sortie, on me donne des ordonnances. J'ai la poussette, je pose mon téléphone sur les ordonnances. J'ai les coussins dans ma main, j'ai ma fille Colline à côté. J'arrive à descendre de l'hôpital, c'est juste pas possible. J'arrive en bas et alors que je suis en train d'arriver sur le parking où notre ami doit venir nous chercher, une bourrasque. Bourrasque de vent. Et j'ai mon téléphone qui est sur les ordonnances et le vent s'engouffre dans les ordonnances. Et je vois mon portable faire chut. Et il s'éclate sur le sol en béton. Et mon portable est mort à ce moment-là. Voilà. Et je me dis, waouh, mon portable est... Bon, ok, j'espère que notre ami va arriver. J'espère qu'il ne va pas y avoir un problème. Je ne suis pas joignable. Je vois notre ami arriver et elle nous prend avec nos affaires. Je vais chercher notre autre fille qui était chez une amie. Je ramène tous mes deux filles à la maison. Et là, je prends... Je sais pas, vous vous rappelez du fixe? Du téléphone fixe, ce vieux machin qu'on n'utilise plus. Voilà. Donc ça peut être utile quand votre téléphone ne marche plus. Donc je prends mon fixe, je ne sais plus comment ça marche, si quand même, mais j'appelle ma femme parce que je veux savoir où elle est. Elle me dit je suis aux urgences. Et je l'entends et elle me dit Pierre, je n'ai pas forcément une bonne nouvelle, je me suis fait une fracture déplacée du pied. Et là, elle me dit ça. Et puis vous savez, les enfants, ils ont une capacité de récupération étonnante. Alors que ma fille était complètement raplapla, une énergie nouvelle. Et moi, je suis assis sur le bord de mon lit. J'entends ma femme me dire, j'ai le pied déplacé pendant plusieurs mois, je vais être bloqué, je ne vais rien pouvoir faire, je ne vais pas pouvoir amener les filles, pas m'occuper d'elles. Moi, je me dis, il y a la rentrée. Et je vois mes filles sauter partout. Et là, je m'assois sur le coin du lit, je me dis, je suis fatigué. Avec l'idée et le sentiment, comme un esprit d'abattement qui me tombe dessus, peut-être vous comprenez de quoi je parle, un esprit d'abattement là, et de découragement en disant, mais Seigneur, comment je vais faire? Et je peux présumer quelque part qu'Israël, après avoir eu soif, après avoir eu faim, après avoir eu soif, même si Dieu a agi, même si Dieu s'est manifesté, peut-être ont-ils eu un espèce de coup de barre spirituel. Et déjà qu'ils n'étaient pas très motivés parce qu'ils ont murmuré à chaque fois contre Dieu. Vous vous rappelez, chaque fois ils vont murmurer contre Dieu en l'espace de 2 mois, ils vont se prendre des volées. Première, ils vont murmurer. Deuxième, ils vont murmurer. Troisième, ils vont murmurer. Vous savez, ce qu'on peut s'attendre sur la quatrième, à votre avis, c'est qu'ils murmurent encore. Et très logiquement, on pourrait partir dans cette logique que finalement, Israël, à ce moment-là précis, alors qu'ils se sont pris déjà 3 épreuves, la quatrième peut-être allait être la cerise sur le gâteau. Parce qu'avoir faim, c'est une chose, avoir soif, c'est une chose, mais avoir Amalek qui vous poursuit parce qu'il veut en terminer avec vous. Vous savez, Amalek, c'est presque une histoire de famille, c'est une histoire de vengeance. Il y a plein d'enjeux autour de la famille d'Amalek parce que quelque part, ce sont des cousins lointains. Israël et Amalek étaient des cousins très lointains et il y a des règlements de compte. Quand Amalek venait attaquer Israël, ce n'était pas pour leur piquer leurs biens, c'était juste pour en finir avec Israël. Alors quand Israël voit Amalek arriver, moi je me suis dit, waouh, ils vont exploser. Si jusqu'à présent ils ont murmuré, quand Moïse va voir Amalek arriver, il va se dire, c'est bon, je vais y passer. Qu'en pensez-vous? Je me suis dit ça, je me suis dit, c'est la logique, ça doit aller dans ce sens-là. Lisons ce qu'il va se passer. Verset 9, verset 8, nous apprenons qu'Amalek attaque Israël. Verset 9, voici ce qu'il nous dit. « Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je maintiendrai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main. » Verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. « Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Quand on regarde le contexte, on se dit, on a dû louper un épisode. Où sont les murmures? Où sont les cris de colère? Où sont les cris d'amertume? Où est l'esprit d'abattement? Où est cet esprit qui a amené Moïse à un moment donné à dire à Dieu, ils vont me lapider? Parce que n'y voyez pas quelque chose de plus simple que d'avoir soif ou d'avoir faim. Affronter Amalek, c'était un combat à la mort ou à la vie. Et souvent, quand je suis passé au travers de ce texte sans réaliser que à Refidim, il allait se passer quelque chose. Il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, le texte et les textes anglais le soulignent d'une façon différente. Peut-être avez-vous une Bible anglaise, mais dans la plupart des Bibles anglaises, ce n'est pas simplement « Amalek vint combattre Israël ». Non, puis « Amalek vint combattre Israël ». Il y a un puits qui a été rajouté. Et ce puits-là m'a souvent interpellé. Mais quand on comprend, qu'on réalise le contexte, il y a eu une succession d'événements pour Israël, une succession d'épreuves qui ont fait mal à Israël, qui ont été difficiles pour Israël. Puis traduit cette succession-là, mais traduit aussi un basculement, un changement, quelque chose qui va amener Israël dans une autre dynamique, dans une autre attitude. Et finalement, lorsqu'on regarde le texte, moi, l'une des premières choses qui m'a surpris quand j'ai lu le contexte, c'est qu'Israël ne réagisse pas plus que ça au fait de vivre une quatrième épreuve successive. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Où sont les murmures? Où est la colère? Où est l'envie d'en finir avec Moïse? Où est l'esprit d'abattement? Après avoir réfléchi et m'être posé devant Dieu, je crois qu'il va se passer juste quelque chose d'extraordinaire à Refidim, que le texte ne transmet pas, ne communique pas, mais évidemment il va se passer quelque chose. On ne peut pas arriver au bout de 2 mois d'épreuves successives à dire « pas de problème, on y va ». Surtout qu'avant on a manifesté tout le contraire. Et il y a bien évidemment quelque chose qui s'est passé à Refidim. Et j'aimerais vous dire, partager simplement quelques points, 3 clés de compréhension de ce qui s'est passé à Refidim. L'une des premières clés que j'aimerais déposer sur ton cœur, laisser sur ton cœur, et c'est sans doute la clé de compréhension de tout ce qui s'est passé à Refidim, ils vont basculer dans une nouvelle identité. Il y a une chose que j'ai rarement appréhendé ou compris dans le comportement de Dieu vis-à-vis de ce peuple. Comprenez. Ils sortent d'Égypte et je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, Dieu a enregistré dans le GPS un parcours à faire. Ils auraient très bien pu couper, mais Dieu va les faire cheminer dans plusieurs déserts. C'est Dieu qui va les faire cheminer dans ces déserts. Et ça m'a souvent interpellé de dire, mais oh, pas facile. Ils sortent d'esclavage, ils sortent d'un conflit qui a été compliqué avec Pharaon. Et je me suis dit, bah, peut-être ça serait sympa de se reposer, de trouver une terre où ça va bien se passer, où ça pourrait être plus simple, peut-être hospitalière, quelque chose de moins compliqué. Or, Dieu, dès la fin, dès qu'ils traversent la mer Rouge, Dieu va les faire cheminer dans des déserts successifs. On les a lus, où Dieu va les mettre à l'épreuve. D'ailleurs, Dieu ne se gêne pas pour leur dire et pour nous le dire. Dans ce verset-là, Exode chapitre 15, verset 24, voici ce qui nous est dit. « Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. » Mais notez ce qui est dit après. « Alors qu'ils viennent juste de passer la mer Rouge, et ce fut là qu'il mit le peuple à l'épreuve. » C'est pour ça que je nous dis, ne sous-estimons pas ce qu'Israël a vécu dans ce désert. Ça a été dur. Et ça a été voulu par Dieu. Oh Seigneur, par moments lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on pourrait avoir l'espérance de vivre Refidim dans ce qu'il dit. Refidim veut dire repos. Et bizarrement, ce n'est pas du tout ce qu'Israël va vivre. Au contraire. Ils vont vivre un temps compliqué, difficile, les quatre successions d'épreuves. Et ce texte m'amène à dire que c'était voulu par Dieu. Dieu, en faisant sortir son peuple d'Égypte, n'a pas simplement brisé le joug de l'esclavage qui était sur leur cou, sur leur tête. Dieu est allé beaucoup plus loin. Il a brisé ce que moi j'appelle l'esprit d'esclavage. Et l'apôtre Paul va en parler différemment. Il va parler de l'esprit de servitude. Ça vous parle, Romains chapitre 8, verset 15. Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais il nous a donné un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Mes frères et sœurs, on peut être sorti d'Égypte, on peut être sorti du joug du péché, on peut avoir passé la mer Rouge, être baptisé et commencer à cheminer avec Dieu, être libéré du joug du péché, tout en portant les stigmates de celui-ci dans nos vies. Et clairement, ce que Dieu cherche à faire, certes, il a brisé le joug du péché, il a brisé le joug égyptien qui était sur le peuple, mais Dieu voulait aller plus loin avec son peuple. Ce qu'il a voulu briser, c'est l'esprit de servitude qui était sur eux. Des centaines d'années d'esclavage a laissé des stigmates, a laissé des habitudes, a laissé des esprits sur ce peuple. Des choses qui avaient été lourdes de conséquences et que Dieu a dû combattre dans ce désert. Dieu a permis que son peuple passe par là, non seulement pour le délivrer de la main des Égyptiens, mais de le délivrer de l'esprit de servitude. Je parle souvent, et on pourrait parler de l'esprit de servitude, parce que ça, à mon avis, on est beaucoup, et on peut être dans ce cas-là ce matin, on peut avoir traversé la mer Rouge, on peut avoir donné son cœur à Jésus, tout en se maintenant dans un esprit de servitude. Et peut-être ce matin, dans ton cœur, t'aimerais vivre certaines choses avec Dieu, mais dans ton cœur, c'est un esprit d'abattement qui se trouve, c'est un esprit même de murmure qui s'y trouve, c'est un esprit de découragement qui s'y trouve. Et si Paul en parle, c'est qu'il y était confronté. Quand Paul dit à ses églises, à Romains, à l'église de Romains, quand il lui dit clairement, ce n'est pas un esprit de servitude pour vous amener à craindre que vous avez reçu, Paul met en évidence que par moment, même étant chrétien, non, même étant libéré du joug du péché, être libéré du joug, excusez-moi, égyptien, nous pouvons être animés d'un esprit de servitude. Ce matin, où tu en es? Je pose la question parce que on peut avoir le sentiment de passer à côté de notre vie spirituelle, de notre vie de chrétien, parce que dans notre cœur, on sent qu'on est animé d'un esprit, mais pas celui qu'on devrait vivre. Et je pose la question à ton âme, je pose la question à ton fort intérieur, de quel esprit es-tu animé? Parce que c'est vrai, tu pourrais dire, Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Dieu m'a fait sortir du joug du péché. Dieu m'a amené à passer la mer Rouge. J'ai vu la gloire de Dieu. Mais pour autant, dans ton cœur, c'est encore l'esprit de servitude qui règne. J'aimerais te dire ce matin que Dieu peut-être permet aujourd'hui une succession de choses que tu pourrais comparer à des épreuves et qui t'amènent à être dans un esprit d'abattement, dans un esprit de crainte, mais surtout dans un esprit de servitude. Sauf que le projet de Dieu, c'est de t'en sortir. Dieu veut briser l'esprit de servitude qui est sur ta vie. Dieu veut t'amener à rentrer dans cette liberté en Christ. Cette liberté qui n'est pas simplement manifestée parce que le joug du péché est brisé sur ta vie, non, plus encore. Cette liberté qui va s'exprimer par un esprit nouveau, un esprit rafraîchi, un esprit qui a animé Israël à Réphidim. Un esprit qui, peut-être, à un moment donné, peut-être Israël aurait pu tomber dans l'abattement et dire encore une épreuve, et même murmurer encore plus, et même peut-être en finir avec Moïse. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce texte, c'est non seulement ils ne vont pas se rebeller contre Moïse, non seulement ils ne vont pas murmurer contre Moïse, mais ils vont partir au combat. Si Dieu veut nous faire basculer dans une nouvelle identité qui nous fait réaliser qui nous sommes en Christ, qui nous sommes en Dieu, et Dieu veut nous amener à réaliser que nous devenons enfants de Dieu, il met aussi de nouvelles dispositions et il peut te faire, et c'est mon deuxième point, te faire basculer dans une nouvelle saison de ta vie. Israël va basculer dans une nouvelle identité, mais Israël va basculer aussi dans une nouvelle saison de sa vie. Je trouve ça juste extraordinaire. C'est en effet, leur état d'esprit va changer. Plus de critiques, plus de murmures, fini l'esprit de servitude, mais aussi il va mettre des dispositions nouvelles, il va les mettre dans un autre contexte spirituel. Comprenez, il y a une chose qu'Israël va expérimenter, c'est que tant qu'ils étaient sous le joug égyptien, c'est Dieu qui combattait pour eux. Le texte le dit. Exode chapitre 14, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Mais regardez ce qu'il dit, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous. » Alors en fonction des versions, c'est plutôt « Ne bougez pas, ne faites rien, laissez-le faire. » Vous savez, des fois, et c'est toute l'image de notre conversion, tant que nous sommes sous le joug du péché, c'est Dieu qui va combattre pour toi pour t'en faire sortir d'Égypte. Oui. Sauf que quand Dieu nous a fait sortir du joug de l'Égypte, quand Dieu a brisé le joug du péché sur nos vies, il veut mettre en nous une nouvelle nature. Et cette nature-là, ce n'est pas un esprit de servitude. Au contraire. Et c'est là qu'on se rend compte que pendant un temps et pendant une saison, Israël a laissé Dieu combattre. Tant qu'ils étaient sous le joug du péché, tant qu'ils étaient sous le joug égyptien, Israël a regardé Dieu faire. Sauf qu'une fois passé la mer Rouge, le joug du péché est brisé. La puissance du péché dans nos vies est brisée. Aussi, il n'a plus autorité sur nous. Amen. Le péché n'a plus autorité sur nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus tenté par le péché. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus amenés à lutter contre le péché. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on a autorité dessus. Ça veut dire que si on rentre en lutte avec, on est vainqueur, mes frères et sœurs. C'est ça que ça veut dire. Si on rentre en lutte contre le péché, nous sommes vainqueurs parce que nous ne sommes plus asservis à la puissance du péché. Amen. Aussi, qu'est-ce que fait Israël? Et c'est là que je dis qu'ils rentrent dans une nouvelle saison. S'ils ont laissé Dieu combattre, Dieu les a fait rentrer dans une nouvelle saison où, certes, Dieu continue à combattre, mais avec eux. Alors, si Israël a regardé le spectacle, si Israël a regardé Dieu faire, une fois à Réphidim, une fois qu'ils auront réalisé qu'ils sont en Jésus, une fois qu'ils ont réalisé qu'ils sont rentrés dans une autre saison de leur vie, il va se passer quelque chose dans leur cœur, au point même de dire, il faut aller combattre. On va aller combattre Amalek. Tu n'es plus spectateur de ce que Dieu va faire, mais tu es participant avec lui à la victoire. Moi, je trouve ça extraordinaire quand Dieu nous dit qu'il nous fait participants de sa victoire. Et c'est le cas. On n'est plus spectateur de ce que Dieu fait, mais Dieu veut nous rentrer, nous faire rentrer dans cette dimension. Et tout ce texte est autour de ce thème particulier où il est dit que l'Éternel est ma bannière. Quelque part, Dieu signifie une chose, c'est que nous ne sommes plus des civils. Il nous a fait rentrer, il nous a enrôlés dans son armée pour combattre. Et j'aimerais te dire, il y a une saison dans ta vie où tu as vu l'Éternel faire. Maintenant, Dieu te dit, rentre dans la saison où tu combats avec l'Éternel. À Réphidim, Israël va combattre Amalek. Et ce que je trouve juste extraordinaire, c'est qu'alors que Israël jusqu'à présent avait subi les choses, ils vont prendre le revers de ça, ils vont rentrer dans la bataille et ils vont vaincre avec l'aide de l'Éternel, certes, mais ils vont être participants de la bataille et victorieux avec Christ. Mon frère, ma sœur, on peut passer toute sa vie à regarder Dieu combattre pour nous. Et Israël, pendant une période de sa vie, pendant une période de son pèlerinage, va regarder Dieu faire. Il va regarder Dieu pourvoir à l'eau. Il va regarder Dieu pourvoir aux cailles. Il va regarder Dieu pourvoir à la manne. Il va regarder Dieu encore pourvoir à l'eau, à Réphidim. Mais il y a une période où Dieu te dit, maintenant, rentre dans la bataille parce que tu as autorité et qu'en combattant, tu peux vaincre avec la puissance de Dieu. Il y a une chose juste extraordinaire, et vous aurez l'occasion de lire, chaque fois qu'Israël s'est plaint, jamais il ne s'est plaint à Dieu. Souvent même Moïse, à un moment donné, va se retourner vers Dieu, mais regarde, mais il va se retourner vers le peuple, il va lui dire, mais ce n'est pas à moi qu'il faut vous adresser, c'est à Dieu. Mais moi, je suis pour rien. Allez voir Dieu. Et c'est tellement fort dans le texte. Dieu a inversé la chose. Et certainement, je voudrais laisser ça sur votre cœur parce que à partir de Réphidim, il va y avoir un avant et un après dans le comportement d'Israël. Et c'est remarquable parce que pendant presque 2 ans, Israël ne va plus murmurer. Et la dernière fois que Israël va murmurer, ou la fois suivante où Israël va murmurer, c'est quand ils vont laisser l'esprit de servitude rejaillir dans leur cœur. Et ça va être aux limites de Canaan. Cet été, j'ai prêché sur les géants assis sur nos promesses. Et c'est là que l'esprit de servitude va ressortir. S'il y a bien un combat à avoir dans nos vies spirituelles, mes amis, c'est contre l'esprit de servitude. Il va nous faire passer à côté de bien des choses. Et pendant presque 2 ans à la suite de Réphidim, plus jamais Israël ne va murmurer. Waouh ! Ils vont rentrer dans leur identité, ils vont rentrer dans une nouvelle saison. Troisième point, ils vont rentrer dans une marche nouvelle avec Dieu. Je dis ça parce que Israël va encore cheminer pendant presque 2 ans dans le désert jusqu'aux portes de Canaan. Et j'aimerais vous poser une question toute simple. À votre avis, est-ce que dans un désert, comme on peut connaître cette partie de ce pays, est-ce qu'il était facile de trouver de l'eau? Ma conviction est qu'Israël va passer par d'autres périodes où ils vont avoir faim, où ils vont avoir soif. Sauf que la Bible ne les relate pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont passer dans une autre dimension de leur marche avec Dieu. Et qu'au lieu de murmurer, cette fois-ci, ils vont rentrer dans le combat avec Dieu. Et certainement, il y a dû y avoir peut-être d'autres sources d'eau. Certainement, il y a dû y avoir d'autres miracles que l'on ne connaît pas. Mais issus d'une marche avec Dieu et plus du murmure contre Dieu. Ce matin, je voudrais laisser sur votre cœur cette volonté que Dieu a de vous faire basculer aussi. Il y a un esprit d'esclavage, un esprit de servitude sur ta vie. Et comme Paul le dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour craindre ou de servitude pour craindre, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba Père ». Ce matin, on pourrait tellement ressembler à Israël. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut passer par des temps compliqués. Et je sais ce que c'est. Des temps où on a l'impression que les choses s'acharnent et pourraient nous amener à murmurer contre Dieu. Murmurer contre les situations, murmurer contre ce qu'on vit, murmurer peut-être au point de dire « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ?» Se remettre en question. Et peut-être il faudrait se remettre en question. Il faudrait se remettre en question parce que Dieu veut t'amener dans une autre disposition. Et Dieu permet peut-être tout ça pour t'amener à comprendre qu'il faut que dans ta vie, l'esprit de servitude bascule et disparaisse. Israël, tant qu'il va vivre, l'esprit de servitude va subir les choses. Et ce matin, Dieu te dit, tu n'as pas à les subir. Tu n'as pas à subir les choses. L'esprit de murmure, c'est l'esprit de servitude. Vous savez, il n'y a pas grand-chose de différent pour Israël. Quand ils étaient sous l'oppression égyptienne, ils murmuraient. Hein. Ils murmuraient. Une fois sortis du joug égyptien, en marche avec Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont murmurer, l'esprit de servitude est là. Ce matin, tu sais que dans ton cœur, il demeure un esprit de servitude tellement fort qu'il est en train de te gâcher la vie et tu subis les choses. Dieu veut te faire passer, basculer dans une nouvelle identité. Tu peux crier Abba Père ce matin. Tu peux rentrer dans une nouvelle saison de ta vie où tu as peut-être laissé Dieu combattre pour toi, mais maintenant Dieu te dit combat avec moi. Et avec toi, nous ferons des exploits. Amen. Tu peux aussi vivre quelque chose d'extraordinaire, pratiquer cette nouvelle marche avec Dieu. Et pendant presque 2 ans, Israël va vivre une marche avec Dieu extraordinaire. Et si vous lisez la suite, il va y avoir des erreurs, mais il va plus y avoir de murmures. Parce que l'esprit de servitude va être vaincu. Jusqu'aux portes de Canaan, Israël va vivre quelque chose de particulier, le repos, entre guillemets. Jamais trop compris pourquoi Réphidim, ils ont mis Réphidim. J'aimerais juste peut-être donner une indication par rapport à ça. C'est peut-être parce qu'ils sont passés dans le véritable repos. Et que malgré les circonstances, ils ont appris à marcher avec le Seigneur. Et en effet, Réphidim prend tout son sens là. Parce qu'à partir de ce point, ils vont vivre autre chose avec Dieu. T'es sorti d'Égypte, mais tu vis encore sous le joug de l'esprit de servitude. Dieu veut agir en toi ce matin. Oui, bien qu'on courbe nos têtes quelques instants.